Mais André Lory est connu comme écrivain pour la jeunesse, pour l'adolescence et comme auteur d'ouvrages pédagogiques. Et celui qui vient nous en parler, donc, c'est M. Soubret, membre du conseil d'administration de la Société Jules Verne, et aussi, si j'ose dire, et peut-être et surtout, grand bibliophile, grand collectionneur et bibliographe, et qui donc va nous retracer d'une part les manifestations qui entourent le centenaire d'André Lory, et puis surtout peut-être et la carrière de ce passé extraordinaire.
Merci. Alors si vous permettez, puisque c'est une soirée de lecture, je vais commencer par une petite lecture pour voir si on se situe dans l'actualité. Et pourtant une vaste évolution, grosse de péril pour l'Europe industrielle, était déjà en train de s'accomplir dans l'Inde anglaise. Chaque jour voyait naître ou s'achever à Bombay quelques usines, quelques manufactures nouvelles, où la main-d'œuvre à bas prix, associée aux outillages perfectionnés, entretenait contre la production européenne la plus redoutable et la plus meurtrière des concurrences. Que pourront demain contre ces rivaux placides, nourris d'une poignée de riz, satisfaits d'un salaire de 5 sous, les travailleurs de notre vieux monde ? Quelques lignes plus loin, dans ce péril mortel de l'industrie européenne, dans ces catastrophes imminentes, peut-être la France est-elle encore, de toutes les nations, la mieux partagée ou la moins durement menacée. Si elle s'est restée fidèle à son génie, toujours visée à la perfection de ses produits, seule vraiment inimitable. Alors vous voyez, c'est quand même assez d'actualité. Alors je vais vous montrer la pièce à conviction. C'est un livre qui a paru en 1901 dans la collection Hetzel sous la signature d'un certain André Lory. Édition. Alors elle associe plusieurs grands noms, il y a l'éditeur Hetzel. Elle était illustrée par Léon Bennett, qui est lui aussi un grand illustrateur de la maison. Alors ça c'est un extrait du catalogue Hetzel, vous voyez, qui est 1901. La page publicitaire qui l'accompagnait, alors on sait que ce volume a été vendu en carton étoile pour la somme de 10 francs or. C'était cher pour l'époque. Pour faire une présentation d'André Lory, c'est assez curieux parce que c'est un personnage qui a toujours fait, quand il partait dans une direction, il faisait quelquefois quelques années ou quelques jours même après, exactement la démarche inverse. Alors je vais essayer de vous donner un petit peu l'évolution de sa carrière jusqu'à sa disparition en 1909. Alors au départ, il était corse de naissance, sa mère était corse, son père était principal de collège, il est né à Corté. Alors comme... pour un corse, c'est assez inattendu, il était violemment anti-bonapartiste. Il a écrit dans la Marseillaise contre Napoléon III. Alors il a été un acteur important de l'affaire Victor Noir en 1870, qui a contribué à la disparition brutale de l'Empire, puisque Victor Noir était un de ses témoins, qui était voir le prince Napoléon à l'époque. L'entretien s'est très mal passé, le prince a sorti un revolver à tuer Victor Noir. Il avait 22 ans à l'époque, c'est un journaliste, ce qui a fait un scandale énorme. Et ça marque vraiment les débuts de la fin du Grand Empire. Ensuite, il fait ses études de médecine. Alors, il les a arrêtées au bout de 4 ans. Je ne sais pas trop pourquoi. Il a pas dû passer le concours de l'internat. Il n'y a pas assez de documents sur l'époque. Mais par contre, il a continué à écrire des articles, de physiologie en particulier, en signant sous un pseudonyme de docteur. C'était le docteur Blasius à l'époque. Ensuite, il s'engage comme volontaire pour combattre les Prussiens. Pendant le siège de Paris en 70, c'est au 18e bataillon de chasseurs à pied. C'était des corps d'élite de l'armée régulière, donc il était du côté du pouvoir. Et brutalement, il quitte l'armée et devient délégué aux relations extérieures de la commune. Donc c'est le communard qui prend la place. Il échange une tunique bleue contre une écharpe rouge. Alors il a un poste important à la commune, puisqu'il est délégué aux affaires étrangères, ce qui correspond au poste de ministre des Affaires étrangères. Donc il se retrouvait dans le bureau du ministre au Quai d'Orsay. Comme vous le savez, la commune tourne mal, la semaine sanglante, et Lory est obligé de se... Enfin, Rousset, à l'époque, est obligé de se cacher. Il a même été retrouvé dans un placard d'une modiste à Paris, au moment où il était arrêté. Alors, vous voyez, il passait du bureau du Quai d'Orsay au placard d'une modiste. Il passe au conseil de guerre à Versailles, et il est déporté en Nouvelle-Calédonie en 1872. Alors ensuite, il y a toute une période assez rocambolesque où il s'évade de la Nouvelle-Calédonie avec un groupe de proscrits qui étaient avec lui, qui étaient tous francs-maçons et qui font agir les chaînes d'entraide franc-maçonne pour... ils louent un navire et ça leur permet de s'évader. et de gagner la mairie. Alors très curieusement, on retrouvera en 1907, il deviendra lui, quant à lui, délégué et représentant officiel de son ancienne terre de rélégation au Conseil supérieur des colonies. Ensuite, bon, il y a son appartenance à la franc-maçonnerie qui commence à être connue, et ce qui lui permet, à partir de Londres où il s'était réfugié en 1975, d'établir des relations avec l'éditeur Hetzel, grâce à l'intermédiaire d'un abbé, Louis-Marie Gaston de Manas, qui était vicaire de Notre-Dame de Lorette. Alors c'est assez curieux disons, un franc-maçon qui a des relations avec un abbé qui lui sert d'intermédiaire auprès de son éditeur. Il prend contact avec l'éditeur Hetzel et commence à fournir à l'éditeur des manuscrits. Alors il y a deux manuscrits qui sont bien connus, que Jules Verne a signés, mais en vérité c'est Rousset sous le pseudonyme de Lory qui les a écrits. Alors il y a les 500 millions de la Bégum et puis l'Étoile du Sud. Alors on sait maintenant que ces deux voyages extraordinaires que Jules Verne avait bien accepté de signer ont été écrits par Lory, qui utilisait un autre pseudonyme sous le nom de Philippe Daril. Et de nombreuses rééditions pendant la guerre de 14 dans les feuilletons.
Tout à fait. C'est très patriotique. Par contre, Lory n'a pas parlé de...
Mais Hetzel cherchait un peu pour un remplaçant à Jules Verne, mais il a cherché. C'était une période où Jules Verne était fatigué, il avait des problèmes avec son fils, donc il cherchait un petit peu à réalimenter sa maison d'édition, et c'est pour ça que Lory a un certain succès. Alors à ce propos, j'avais fait un petit article dans la revue Plume, je crois que je vais la faire circuler, vous trouverez justement l'article et André Lory, le nègre de Jules Verne. Bon, puis il y a le même problème pour l'Étoile du Sud aussi. On a retrouvé le manuscrit signé de Philippe Daril. Et on sait que Jules Verne a pratiquement repris le texte avec quelques modifications dans l'intrigue. C'était d'abord le diamant bleu, puis l'Étoile du Nord. Et trois titres successifs. Dans l'Étoile du Sud, il y a toute une partie sur la fabrication d'aluminium qui a été traitée longuement par Daril, Lory, Grousset. Et qui était supprimé froidement par Jules Verne. Alors il a peut-être voulu, puisque Jules Verne avait déjà traité la question dans La Terre à la Lune avec l'obus, vous savez, qui part vers la Lune, qui est en aluminium, donc il n'a peut-être pas voulu reprendre complètement. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'Hetzel ait laissé passer aussi ses suppressions. Il rappelle les procédés de fabrication de Sainte-Claire-de-Ville, et Sainte-Claire-de-Ville étant un ami de Hetzel. Alors d'autres occupations donc de Lory. Il était pédagogue et il a préconisé le renouveau de la gymnastique. Alors il a fait toute une série de livres, je vous présenterai tout à l'heure là, sur les scènes de la vie de collège qui ont redéveloppé et remis à la mode la gymnastique dans les écoles. Alors il s'opposait violemment à Pierre Frédy, baron de Coubertin, qui à l'époque relançait les Jeux Olympiques. Coubertin voulait surtout faire des athlètes en éliminant les gens un peu faibles, tandis que Lory voulait au contraire que le sport soit le même pour tous. Et puis en fait, il était élu député socialiste du 12e arrondissement à partir de 1893. Le Parti socialiste à l'époque avait une tendance internationaliste, bien entendu. Lui s'opposait à la lutte des classes. Très curieusement, oui, il y a toujours cette opposition chez Lory. Et puis enfin, en 1895, il a présenté un projet absolument ahurissant pour faire une construction souterraine pour l'exposition de 1900. Il s'opposait à la tour Eiffel qui venait d'être construite en 89, et elle partait vers le haut, évidemment. Et lui, alors, c'est un système avec des puits verticaux de 200 mètres de profondeur qui devaient atteindre le centre de la Terre. Alors là-dedans, il reprend un thème un peu alchimique. On retrouve ce thème qui était supprimé en partie dans l'Étoile du Sud. Voilà, alors donc voilà la carrière rapide de Lory. J'ai essayé de résumer tout ça en prenant le chiffre 3. Donc on a le 3 noms. Pascal Rousset, donc qui était né à Corté le 7 avril 1844. Philippe Daril, c'est son pseudonyme qui est utilisé pour ses activités de journaliste et sa correspondance. Et André Lory, c'est un pseudonyme qui lui a été choisi sur une liste qui avait été fournie à Hetzel et qui est donc la propriété de la maison Hetzel. Jusqu'à 1905-1906, où on aura d'autres publication d'André Lory, mais qui ne seront pas chez Hetzel. On peut retenir trois de ses engagements, c'est la lutte anti-bonapartiste, avec Henri Rochefort. Deux, la commune insurrectionnelle de Paris, l'étiquette de communard lui était restée longtemps, c'est pour ça qu'il utilisait beaucoup de pseudonymes quand il publiait pour le grand public. Il exerçait en somme trois professions. Il était homme politique, donc il était élu député à l'Assemblée nationale en 93 jusqu'en 1909, date de sa mort. Il était journaliste, bien sûr. Il a publié de nombreux articles dans une vingtaine de journaux, dans quatre revues, avec d'autres pseudonymes comme le docteur Blasius, Tomasi, Oscar Jacob, Banco, Tiburce Morand. Et puis il était écrivain et membre de la Société des gens de lettres. Alors les trois manuscrits, on a évoqué les deux premiers manuscrits, L'Ange vol et Le diamant bleu, et il y a un troisième qui est L'épave du Saint-Yat. Et là, Jules Verne a accepté que le nom d'Henri apparaisse officiellement. Donc le manuscrit de L'épave est actuellement à la Bibliothèque nationale. C'est le seul ouvrage que Jules Verne a accepté de co-signer. Il a fait des traductions aussi. Il a traduit deux ouvrages de Menred, Le chef au bracelet d'or et La terre de feu, et surtout une traduction de L'île au trésor. C'est lui qui a fait la traduction française en 1886. Il a publié chez Hetzel trois séries de romans. La vie partout, c'est une série de 10 volumes in 18 qui sont publiés entre 1884 et 1888. Une série de vie de collège, 14 volumes, qui seront publiés entre 82 et 1905. Et puis ses romans d'aventure qui comportent 13 volumes. Alors là-dedans, on peut distinguer trois ouvrages remarquables, j'espère que vous serez d'accord. Les exilés de la Terre. Là, il y a le Yacht aussi, qui publie un livre sur les bateaux, qui paraît fait autorité pour les... Et puis Spiridon le Muet ou La fourmi géante, qui est vraiment un ouvrage de pure science-fiction, qu'il publiera chez Jules Rouff, mais après son passage chez Hetzel. Et puis ensuite, j'ai conclu avec trois points, puisqu'il avait des attaches maçonniques. Il a été initié à la loge Saint-Vincent de Paul, et ensuite il appartenait à la loge d'Hydrault, qui dépendait de la grande loge symbolique écossaise. Alors voilà, si vous voulez, maintenant on va voir les romans d'aventure. Alors, il commence par L'héritier de Robinson. C'est un ouvrage qui était illustré par Bennett. Alors, voilà le cartonnet original. Cet héritier de Robinson a été réédité ensuite par la suite pour que ça soit uniforme avec une autre série qui avait été faite chez Hetzel. Donc ça, c'est une réédition, mais beaucoup plus tardive. Ensuite, on trouve L'île au trésor. Alors là, uniquement, il est intervenu que comme traducteur. Alors voilà le cartonnage, et voilà ce qui est plus rare, l'exemplaire broché. Ensuite, il a publié Le Capitaine Trafalgar. Alors ces cartonnages-là sont étonnants parce qu'à chaque fois, vous voyez, il y a un motif qui est particulier au roman. Alors, ça représente un travail de reliure et de gravure absolument étonnant. Et puis ensuite, on arrive aux Exilés de la Terre. Voilà. D'habitude, ça sont des formats inuits, raisin ou grand raisin. Puisque là, c'est un format grand inuit. Et puis ensuite, à partir de 90, il a publié quatre romans, de New York à Brest en 7 heures. Alors là, c'est vraiment purement de la science-fiction, Le secret du mage. Alors à côté, ce sont les dessins qui ont servi pour faire les plaques de gravure. Le rubis du grand lama et Atlantis. Alors, comme le roman l'indique, l'histoire de recherche de trésors ou des fonds sous-marins. Toujours, nous sommes toujours dans les romans d'aventure. Alors il a fait une série de trois volumes, Les chercheurs d'or de l'Afrique australe. Et c'est toujours l'histoire d'une famille qui part en Afrique australe, qui recherche de l'or. Alors ce qui est très caractéristique de Lori, c'est qu'à chaque fois, il y a toujours un bon jeune homme qui est sorti d'une grande école ou polytechnique ou centrale. C'est le parfait jeune homme, donc il recherche, il retrouve tout ça. Puis à la fin du roman, il épouse l'héroïne. Ça c'est le géant de l'azur. C'est l'histoire d'un moteur léger. Le dernier qui est sorti chez Hetzel, Le maître de la vigne. Alors il devait y avoir un autre roman qui serait appelé Paris à Tombouctou, qui aurait porté sur les transformations imminentes possibles du continent noir. Il a été soumis à Hetzel en janvier 1900 et refusé, donc il est resté dans les cartons d'éditeur. Alors ce qui est intéressant dans toute cette série de romans d'aventure, c'est que pour les spécialistes de science-fiction, ils considèrent que cette collection-là est la première collection de science-fiction au monde. Ensuite, on a la série de la vie de collège. Alors, je vais vous lire un petit passage qui a été écrit par Pierre-Jules Hetzel sous son pseudonyme de Stahl quand il a lancé la série. C'est écrit en 1880. L'éducation bien faite dans une nation tendrait à rendre la guerre civile presque impossible. L'éducation bien faite dans toutes les nations finirait par réduire à néant bien des causes de guerre. Quand nous saurons mieux ce que c'est qu'un Anglais, ce que c'est qu'un Allemand, etc., et quand ceux-ci de leur côté sauront moins mal ce que c'est qu'un Français, les malentendus entre grands pays seront plus rares. Alors, La vie de collège se compose de 14 volumes. C'est scindé en trois séries. Tout d'abord, les scènes de la vie de collège dans tous les pays. On trouve 5 volumes. La vie de collège en Angleterre. Les mémoires d'un collégien, c'est en France. Une année de collège à Paris. Ensuite, en Allemagne, histoire d'un écolier à Neuvrien. Et Tito le Florentin en Italie. Alors, il avait commencé par la France et les pays voisins. Ensuite, on trouve une anomalie, mais un cartonnage spécial qui était fait autour d'un lycée japonais. La deuxième série qui se compose du bachelier de Séville, donc l'Espagne, mémoire d'un collégien russe, et Axel Ebersen, le gradué du Uppsala, c'est-à-dire la Suède. Alors là, il y a une interruption, on est en 92, et il reprend en 97, il avait dû s'arrêter parce qu'il était pas mal pris à l'Assemblée nationale. Il a rédigé beaucoup de discours, etc. Il reprend une série de 5 volumes. Alors on retrouve l'écolier d'Athènes, élargi dans le monde entier, l'oncle de Chicago, le tour du globe d'un bachelier. Mais ensuite les deux derniers, on a l'écolier de Sorbonne. Alors là, il remonte un petit peu dans le temps, comme il l'avait fait pour l'écolier d'Athènes. Et puis un semestre en Suisse. Ce sont des cartonnages qui ont été faits chez Lecas Cartier. Lecas Cartier, c'était les successeurs du relieur Le Nègre, qui avait été racheté par une demoiselle Cartier. Cette demoiselle s'est mariée avec un monsieur Lecas, et c'est pour ça qu'on trouve des cartonnages Lecas Cartier. Oui. Alors là, nous sommes en 1901. Les ateliers étaient à Montrouge. Ils ont pris feu, tout a disparu. Alors pour faire la suite, les deux derniers, vous voyez, les éditeurs ont été obligés de faire remodifier le cartonnage. Alors c'est pour ça que vous voyez un flambeau apparaître au-dessus du cartouche cheval. Alors là, je prépare une petite surprise. À partir de 1912, Hetzel, le fils Hetzel, bien sûr, a fait rééditer tous ces volumes dans une édition compacte, c'était une édition en deux colonnes. Alors on trouve le premier Au-delà des mers avec 3 titres, le tour du globe d'un bachelier autour d'un lycée japonais. Ça c'est pour les étrennes 1912. En 1913, on a Travers l'Europe, on a La vie de collège en Angleterre, l'écolier hanovrien, Axel Ebersen et le semestre en Suisse. Et ensuite, pour 1914, on a Autour de la Méditerranée, Tito le Florentin, l'écolier d'Athènes et le bachelier de Séville. Alors nous sommes en 14, rachète la maison Hetzel. Donc les productions Hetzel s'arrêtent. Mais il y avait en préparation, parce qu'il manquait 4 titres, un volume qui aurait dû paraître en 1915 et qui serait appelé France et Russie. On retrouve l'écolier de Sorbonne, les mémoires d'un collégien, un année de collège à Paris et les mémoires d'un collégien russe. Alors ce volume n'a jamais vu le jour. Alors j'ai retrouvé dans les archives un schéma justement de ce volume qui aurait dû être fait dans le même esprit. Et voilà le volume. Alors ça c'est un Hetzel qui n'a jamais paru. On l'a fait refaire, vous voyez, exactement dans le même esprit. Il y a toute une partie qui est commune, on voit pareil. Point de vue illustration pour André Lory. On retrouve tous les grands illustrateurs de la maison Hetzel qui avaient fait les voyages extraordinaires de Jules Verne. Léon Bennett, qui illustrait 5 romans d'aventure et 4 vies de collège. Georges Roux, qui lui est à 7 romans d'aventure et 4 vies de collège. Ensuite Geoffroy, qui illustrait 2 vies de collège, Rioux qui illustrait 2 romans d'aventure, et puis Philippe Otto, Maillard et Régamé et Atalaya qui ont illustré chacun un volume dans les vies de collège. C'est des dessins originaux de Bennett qui préparaient justement les dessins qui étaient publiés dans les livres. Alors voilà un original pour l'écolier de Sorbonne, et voilà la publication dans les livres. Ça, ça n'a jamais été vu, c'était conservé dans la famille. Oui, c'était des dessins qui étaient rehaussés à la gouache. Ici, nous avons le tour du globe d'un bachelier. Alors ça, c'est amusant parce que voilà le dessin d'étude de Bennett. Et voilà le dessin définitif où il a rajouté des personnages pour coller au texte. Bon, peut-être un mot sur La vie partout. Alors, La vie partout, bon, c'est une série qui apparaît aussi chez Hetzel. Alors, ce sont des petits in 18. Il y a 10 titres et ils sont parus sous son pseudonyme de Philippe Daril, qui signait les autres d'André Lory. Alors, il y a beaucoup de titres qui concernent l'Angleterre, La vie publique en Angleterre, Lettres du général Gordon, Le monde chinois, Vassili Samarine, Le petit Lambton à Londres, Les Anglais en Irlande et La Renaissance physique, qui est un livre qui a laissé quand même une certaine trace pour l'éducation physique. Alors pour la petite histoire aussi, il a fait publier un livre, donc Vassili Samarine, mais c'est pas lui qui l'a écrit. C'était écrit par Robert Case, qui a été donc le nègre du nègre, parce qu'il en a retrouvé le manuscrit. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez fréquenté une quarantaine d'années la brasserie Lippe, il y avait un monsieur très aimable qui nous recevait, c'était le fils Case. C'était le fils de Robert Case, et tous les ans, il y avait un prix Robert Case dans la brasserie. Bon, alors je peux peut-être vous dire un mot maintenant des manifestations. Alors au début du mois, un colloque est établi dans la petite ville de Grisolles, qui est située entre Toulouse et Montauban, où a vécu André Laurie. Alors il y a eu une série de conférences, et puis une publication qui va être faite. Le 5 juin à Amiens aussi, une journée André Laurie qui est prévue. C'est Philippe Chénard qui intervient sur le manuscrit de la Bégone Langereuse. Et puis il y a un livre qui est en préparation, qui sera fait par Xavier Noël, qui est vraiment le spécialiste de Laurie, qui a fait un mémoire de maîtrise sur la question. Et son livre, en principe, doit paraître en fin d'année. Alors il y a M. Locke qui fait des rééditions de textes que Laurie a publiés après 1905, mais pas chez Hetzel. On trouve un roman dans la planète Mars, assez curieux, qui a été publié dans la revue illustrée en 1893. Et puis dans la revue Le Globe Trotter, il y a quatre romans aussi. Le secret du volcan, Le toit du monde, L'obus invisible et Spiridon le muet. Alors voilà comment se présente. Et puis signaler aussi, il y a un numéro à l'occasion de Grisolles, un numéro spécial de la société Jules Verne qui est sorti pour le centenaire. Voilà, ben, si vous avez pas des questions à poser.
Moi j'ai une question un petit peu. Monsieur Dimer, relativement jeune de
finir oui, contre, oui, 65 ans.
Pour un adepte, il avait une santé fragile.
Il avait une santé fragile, puis il avait pas mal souffert quand même de sa déportation en Nouvelle-Calédonie. Il est mort d'une crise d'urémie. Et puis un autre détail, c'est quand il était en déportation en Nouvelle-Calédonie, il s'était constitué une bibliothèque. C'est assez étonnant pour un forçat. Quand il s'est évadé, évidemment, il a abandonné la bibliothèque. Et paraît-il, quand il est revenu député en France, il a demandé des dommages d'intérêt pour qu'on lui rembourse les livres qu'il avait laissés.
Pourquoi il est autant méconnu?
Entre les deux guerres, lui et Jules Verne aussi, il faut reconnaître que Jules Verne avait perdu un petit peu de son influence. Et très curieusement, depuis une trentaine d'années, grâce au cartonnage, une folie en ce moment sur la chaîne des cartonnages, ça a remis en valeur la collection Hetzel. Jules Verne, bien sûr, qui est revenu, et puis Laurie, il semble suivre. Oui, c'est pas exactement un nègre, parce que c'est plutôt Hetzel qui a poussé, vous voyez, à un moment, pour que Jules Verne, étant un petit peu défaillant, il prenait du retard. Il devait publier Un capitaine de 15 ans, mais il prenait aussi du retard, donc il avait poussé un peu Laurie. Pour... Il y a une lettre d'Hetzel parlant de Laurie, disant il a du Verne dans le ventre.
Est-ce qu'on peut le lire encore aujourd'hui?
Oui, c'est pas
qu'ils sont plus faibles, ça peut
se Les exilés de la Terre. De New York à Brest, c'est un monsieur qui se promène dans un tube, pipeline, vous voyez, il a envoyé New York jusqu'à Brest dans le tube du pipeline. Laurie voyageait beaucoup. Vous voyez, quand il écrivait sur un pays, en principe, il allait faire un tour dans le pays,
il
prenait.
Ouais, oui. Il y a des notes.
Ah oui, il y a des notes, oui, il suivait.
Il est mort en 1915,
non? Non, 1909.
1909,
puisque c'est le centenaire cette année.
Ah, oui,
il est mort au mois d'avril.